d'attaque. C'est le résultat de 20 ans d'éducation à la haine. Toute une génération en fait a grandi avec cette haine et maintenant elle passe à l'attaque.
Ces attaques, pour moi, sont une réponse à la politique et à la façon dont l'autorité palestinienne traite avec les Israéliens. Ils tuent des enfants et l'autorité palestinienne poursuit une coopération qui nous lie les mains.
Maintenant, l'occupation est douloureuse pour les Israéliens. Nous, les Palestiniens, on n'est plus les seuls à subir. Cet équilibre de la menace, dans un sens, c'est le résultat le plus important de ces 6 mois.
C'est un conflit de basse intensité qui est en train de consumer littéralement le processus de paix au Proche-Orient. Depuis plus de 6 mois maintenant, des assaillants palestiniens, extrêmement jeunes pour la plupart, utilisent leurs propres véhicules ou des couteaux qu'ils trouvent chez eux pour tenter d'assassiner des Israéliens. Comme toujours dans ce conflit, vieux déjà de 68 ans, le bilan des victimes est déséquilibré. 28 Israéliens et 4 étrangers ont trouvé la mort depuis début octobre. 200 Palestiniens qui avaient des visées terroristes ont été abattus. C'est un chiffre très en deçà des dernières guerres à Gaza, par exemple, qui ont fait des milliers de morts. Mais l'onde de choc est particulièrement profonde car l'inquiétude gagne le cœur de la société israélienne, déstabilisée par ces attaques qui visent aussi bien des civils que des militaires. Le gouvernement très conservateur de Benjamin Netanyahou n'est pas parvenu pour l'instant à maîtriser ce danger constant et les sondages montrent que l'équipe au pouvoir est très impopulaire. En face, le camp palestinien est lui aussi frappé par cette violence, la division entre le Hamas qui gouverne Gaza et le Fatah de Mahmoud Abbas qui administre la Cisjordanie est très profonde. Le Hamas se félicite de chaque coup de couteau quand l'autorité palestinienne multiplie les arrestations pour le compte d'Israël afin de dissuader sa propre jeunesse d'agir. Faisant cela, le Fatah se coupe un peu plus encore d'une génération qui n'a, semble-t-il, plus rien à perdre et qui remet en cause la légitimité de ce vieux leader, incapable même d'organiser des élections pour assurer sa propre succession. Cela fait 6 ans qu'un scrutin est attendu dans les territoires palestiniens. Le processus de paix est déjà bien enlisé depuis qu'Israël a repris la colonisation au début des années 2000 et maintenant totalement embourbé. L'intifada au couteau, la haine sans fin, c'est un reportage signé Étienne Monin. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous avons invité ce soir ici en studio Leïla Sera, qui est chercheuse associée aux séries. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous avez beaucoup travaillé sur le Hamas et publié notamment Le Hamas et le Monde aux éditions du CNRS. C'est paru en septembre 2015. Et puis nous sommes aussi en duplex avec Israël, avec Denis Charbit, qui est sociologue, politologue, maître de conférences à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, vous êtes aussi l'auteur d'Israël et les paradoxes, qui est un ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Cavalier Bleu. Et nous sommes en duplex avec notre correspondant à Jérusalem, Étienne Monin. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Alors Étienne, vous avez sillonné la Cisjordanie pour ce reportage et on voit que cette vague de violence qui a commencé début octobre arrive dans un contexte très particulier.
Oui, Israël expérimente alors la coalition la plus à droite de son histoire. Mahmoud Abbas n'arrive pas à donner un nouveau souffle à l'autorité palestinienne. Il a un problème de légitimité. Et puis, il y a cet aveu du côté palestinien d'impuissance autour de l'idée qu'Oslo les a définitivement ou sérieusement enfermés dans la colonisation. Le deuxième acteur autour de ce conflit, lui, est absent dans ce contexte. C'est la communauté internationale. Elle a la main prise dans les rouages de l'État islamique. Les États-Unis ne croient pas à une solution de paix. Ils semblent abandonner un petit peu la partie. Et c'est ce cadre que déchire cette vague de violence avec un caractère particulier. On l'appelle l'intifada des couteaux. Mais ça n'est pas une intifada, ça n'est pas un soulèvement populaire. C'est une partie de la jeunesse qui mène des opérations à caractère suicidaire. La war room dans ce contexte, c'est Internet, avec des dirigeants qui n'ont pas d'influence. D'où l'intérêt, 6 mois plus tard, de voir comment ces deux sociétés confrontées à ce phénomène ont été impactées.
Alors on écoute votre reportage, Étienne Monin, qui va nous conduire en Cisjordanie, mais qui commence à Jérusalem.
Israël est...
Aujourd'hui, Israël est fort comme jamais. On peut se défendre contre n'importe quelle menace extérieure. Les dizaines de milliers de missiles du Hezbollah, on peut gérer ça. La menace nucléaire de l'Iran, on peut gérer ça. Mais on ne peut pas gérer un garçon de 15 ans avec un couteau. Il n'y a pas de réponse militaire possible à la menace que crée l'occupation. Ça ne s'arrêtera que lorsque l'occupation s'arrêtera. Et personne ne dit cette vérité. vérité au public israélien.
En Israël, Daniel Seidman, c'est un peu l'homme qui prêche dans le vide. Il appartient à ce qu'on appelle le camp de la gauche, cette part infime de la société qui combat encore la colonisation, marquée au fer rouge par les groupes de droite et par la coalition au pouvoir qui lui refuse sa place dans le débat national. C'est aussi un bon connaisseur de Jérusalem. La ville est la caisse de résonance du conflit, l'un des ingrédients qui a chauffé à blanc l'opinion publique palestinienne il y a plus de 6 mois, au point de faire partir cet incendie qui consume dans un rythme de basse intensité les deux sociétés et qui fait peser la menace de l'embrasement. Cette vague d'attaques est un phénomène. Elle a plusieurs appellations. Elle est pour l'instant en constante évolution. Ni les Israéliens, ni l'autorité palestinienne ne semblent avoir de prise. Même au plus près des auteurs, dont les familles palestiniennes, elle laisse un effet de sidération perceptible chez Ahmed Kmil. Son fils de 20 ans a participé à l'une des plus retentissantes attaques début février, porte de Damas à Jérusalem, qui a provoqué la mort d'une jeune policière israélienne. Ahmed Kmil est fonctionnaire. Il parle sous le portrait des 3 auteurs de cette attaque, érigés au rang de martyrs pour une cause que lui-même ne cerne pas.
Ces 3 garçons sont des martyrs. Ils sont morts devant la porte de Damas, à Jérusalem. Bien sûr, on n'était pas au courant de cette action. On a appris par les médias qu'il y avait eu une attaque à Jérusalem et que les 3 garçons avaient été tués. Que Dieu ait pitié d'eux. Après, ils ont montré les cartes d'identité des 3 martyrs. On a appris que notre fils était parmi eux. Mettre autant de pression sur les Palestiniens, voilà ce que ça crée. C'est une étrange situation que personne ne peut cerner. Même pour mon fils, il est parti et jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête de ces jeunes. Le père ne peut pas contrôler, la mère non plus, personne, personne.
Là, on est dans une pièce dans laquelle il n'y a presque pas de meubles. Pourquoi ça ?
Les forces israéliennes peuvent venir à n'importe quel moment pour démolir la maison. Alors on a déménagé presque toutes nos affaires et on les a mises dans la maison de mon frère.
Le service de renseignement intérieur israélien s'est penché sur le profil des auteurs. Plus de la moitié des Palestiniens ont 20 ans ou moins. La jeunesse est une part très importante de la population palestinienne. Soucha Abouroub appartient à cette génération. Il a un bon travail dans les communications. Il définit ce mouvement comme une révolte interne et externe, dirigée contre l'occupation et contre l'autorité palestinienne.
La vie est bonne à Kabatiya. Il y a du travail. Ces attaques, pour moi, sont une réponse à la politique et à la façon dont l'autorité palestinienne traite avec les Israéliens. Le problème, c'est la coopération sécuritaire avec Israël. Ces jeunes ne veulent pas de cette coopération. Elle ne s'applique qu'à nous, pas aux Juifs. Ils tuent des enfants et l'autorité palestinienne poursuit une coopération qui nous lie les mains.
Vous êtes jeune, vous aussi. Vous ne vous sentez pas représenté par l'autorité palestinienne ou par les politiques en Palestine ?
En quoi l'autorité palestinienne me représente-t-elle ? Elle me représente avec sa coopération avec les Juifs. Je ne veux pas de coopération. Ce gouvernement qui se dit légitime m'est imposé. Je ne l'ai pas choisi. Il me représente contre ma volonté.
La ville de Kabatia n'est pas un fief radical. Elle est tenue par un maire inféodé au Fatah, le parti du président Mahmoud Abbas. L'autorité palestinienne n'a pas condamné ces attaques, mais elle n'entre pas non plus dans sa stratégie de pouvoir. Les services de renseignement palestiniens ont fait savoir qu'ils avaient déjoué 200 attaques dans les 3 premiers mois. Et le maire de Kabatia, Mahmoud Kmil Abati, fait ce qu'il peut pour contenir sa jeunesse.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les familles pour vérifier que les absences des élèves étaient justifiées. Voilà ce qu'on peut faire. On a parlé aux enfants, on leur a dit combien l'éducation était importante. On leur a dit de faire attention, de se concentrer sur leurs études et sur l'école. Qu'ils pouvaient apporter des choses à leur pays en étant éduqués. L'éducation permet la résistance. Mais la situation palestinienne est la suivante. On est dans l'impasse sur le plan politique, sur le plan économique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a de la souffrance des deux côtés, pour les Palestiniens et pour les Israéliens.
Ces trois derniers mois, les attaques ont faibli en intensité, mais leur dangerosité s'est renforcée. Certaines actions sont plus organisées, des armes à feu artisanales ont fait leur apparition et les colonies sont devenues certaines des cibles avec des actions menées à l'intérieur même du périmètre de sécurité. Le risque fait partie maintenant du quotidien d'Itzhak Moraoni. Il habite la colonie de Kiryat Arba sur les hauteurs d'Hébron. On est lundi, 7h30 du matin, une demi-heure après une double attaque lancée à l'entrée de la colonie.
Toujours autant de nervosité.
Quand il y a un truc comme ça, c'est toujours comme ça. Ouais.
Et vous étiez là ou à proximité?
À peu près.
Et qu'est-ce que vous avez compris de ce qui s'est passé ici?
D'après ce que j'ai compris, il y avait un soldat ici qui garde en fait le matin et les gens qui font le stop pour aller à Jérusalem, pour aller travailler. Et il y a une voiture qui est venue et elle a essayé de l'écraser.
C'est arrivé au moment où en fait les travailleurs palestiniens commençaient à rentrer dans la...
Voilà, exactement. Il y a déjà qui sont arrivés à rentrer et jusqu'après ils l'ont fait sortir. Et c'est dommage.
C'est-à-dire que les travailleurs aujourd'hui ne peuvent pas travailler?
Aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler. Après une journée comme ça, non.
Et est-ce que ça veut dire aussi que les villages autour souvent sont bouclés en répercussion?
Oui. Même les villages autour, ils sont tous bouclés et personne ne peut rentrer.
Comment vous vivez, vous, aujourd'hui, dans ce contexte?
On essaye de voir le mieux, de travailler normal, de faire passer les journées normales. On ne peut pas arrêter leur vie à cause des attentats, des gens qui voient leur vie en noir. Ils se lèvent le matin, ils ont envie de écraser avec leur voiture ou poignarder.
Vous, à l'intérieur, vous vous sentez en sécurité quand vous êtes à l'intérieur?
Oui, 100% sécurité. On n'a pas de problème.
Et quand vous sortez?
Quand on sort des colonies, là, ça commence à être... À Boucher Tzion, à des rentrées des villages, des trucs comme ça, c'est dangereux. C'est un endroit où il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de passages. C'est facile faire un attentat, en fait, là-bas.
Et vous, quand vous allez travailler à Jérusalem et que vous traversez le Boucher Tzion, c'est un carrefour, en fait, grand rond-point. Qu'est-ce que vous ressentez et comment vous passez cet endroit?
Quand vous passez, on dirait que vous arrivez à une zone très dangereuse. Tu vois, il y a les soldats qui sont là-bas, ils attendent, ils savent qu'il y a un truc qui va se passer, qu'il y a quelqu'un qui va essayer de poignarder ou de rouler avec sa voiture. Voilà.
Vous, quand vous allez travailler, est-ce que vous êtes armé?
Oui, bien sûr.
Depuis tout le temps ou récemment?
Non, ça fait déjà un an que je suis armé.
Qu'est-ce qui justifie que vous ayez le droit d'avoir un permis d'armes?
J'habite dans les colonies, dans les zones un peu de plus dangereuses. Et pour aider la sécurité, ils donnent une permission pour les gens qui savent vraiment qu'ils peuvent faire. Ils ont un travail, ils ont été à l'armée. C'est des gens qui, quand ils vont avoir une arme, ils vont bien l'utiliser pour sécurité et pas pour faire des choses tordues. Voilà.
Et alors, si vous êtes témoin d'une attaque,
oui,
comment vous réagirez?
La première chose, c'est trouver la personne la dangereuse. Dès que vraiment j'ai 100% sûr que c'est cette personne-là, s'il est toujours en train d'attaquer, je l'attaque et j'essaye de garder la vie des personnes autour de moi. Au moment vraiment qu'il est en train d'essayer de tuer quelqu'un, en fait, on est obligé de le tuer, c'est pas une question. On ne peut pas donner à une autre personne de tuer quelqu'un parce que ça l'aide même pas de faire un pas vers la paix. Tuer, c'est pas une raison pour dire c'est notre zone.
cette violence agit comme un goutte-à-goutte sur la société israélienne. L'extrême droite s'en nourrit pour critiquer le Premier ministre. Dans les sondages, la population reproche au gouvernement de ne pas en faire assez en matière de sécurité. Dans l'hôpital Shar Zedek à Jérusalem, le numéro 2, Ofer Merin, a intégré cette violence dans la durée. Il soigne ici les victimes et certains auteurs des attaques. C'est un hôpital de première ligne. 250 personnes sont arrivées aux urgences ces 6 derniers mois.
Il y a eu beaucoup d'études sur la résilience dans la population et on peut toujours se demander si on peut s'habituer à ça. Est-ce qu'on peut vraiment s'habituer à avoir des attaques au couteau tous les jours? Si vous êtes assis et par exemple votre épouse est poignardée, vous vous dites « bon ok, ça fait partie de notre vie ». Ici, on ne pense pas que qui que ce soit puisse être préparé à ça. On est très strict sur le fait que chacune des victimes d'attaques terroristes, on fait en sorte qu'elle parle à un travailleur social ou à un psychologue et qu'elle parle de ses sentiments. J'insiste, ce n'est pas quelque chose de trivial. C'est toujours ce que je dis aux patients que je vois. Même si on vit malheureusement dans un secteur comme Jérusalem où il y a presque une attaque par jour, ça n'est pas quelque chose à quoi on peut s'habituer. Vous êtes là, vous marchez dans la rue et quelqu'un essaye de vous tuer. Et il n'y a pas vraiment de corrélation entre la gravité de la blessure et l'impact psychologique. Parfois, il suffit d'être témoin, même si vous n'êtes pas blessé, de marcher avec quelqu'un et de voir cette personne se faire poignarder. Ça laisse un gros impact.
En Israël, l'analyse des causes marque une césure entre la coalition de la droite dure installée 5 mois avant le début de la vague d'attaque et les institutions sécuritaires. Le discours politique cible les responsables palestiniens et les appels à la violence qui se diffusent sur Internet. La position des militaires questionne les conditions d'occupation, les contraintes imposées au quotidien aux Palestiniens et la proportionnalité de la réponse. Binyamin Lashkar est membre du comité central du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
L'origine de cette vague d'attaques vient clairement de l'incitation à la haine qui depuis des années continue dans l'autorité palestinienne. C'est le résultat de 20 ans d'éducation à la haine, à la fois dans les manuels scolaires, dans les universités, dans les médias. On voit ce qui passe dans la télévision palestinienne, à la radio, dans leurs journaux. Toute une génération en fait a grandi avec cette haine et maintenant elle passe à l'attaque. Et voilà, c'est l'origine fondamentale de cette vague d'attaque.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la principale réponse politique à cette vague d'attaque a quand même été de gérer la sécurité et d'apporter une réponse répressive vis-à-vis des Palestiniens avec les destructions de maisons, avec un débat aujourd'hui qui porte même sur la possibilité de déplacer des gens, de leur interdire de vivre dans telle ou telle ville au niveau des familles lorsqu'il y a une attaque par un membre de la famille et que la famille était au courant?
On ne peut pas ne pas répondre quand il y a une vague d'attaque. Et il faut aussi que les terroristes et leurs familles comprennent qu'il y a un prix à payer. Que les terroristes soient suicidaires et qu'ils veulent mourir, parce que c'est vraiment ça. C'est des gens qui vont... J'aimerais revenir d'abord sur ce point, parce qu'en France, beaucoup de gens pensent que les gens font des attentats suicides parce qu'ils sont désespérés. C'est complètement faux, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Il y a 3 causes principales aux attentats suicides. La première, c'est le fanatisme, le bourrage de crâne, le lavage de cerveau. La deuxième, ce sont des gens qui veulent se suicider, tout simplement, comme il y a des suicidaires partout, et qui se disent qu'ils vont le faire en mourant en martyr. Et la troisième, qui est un peu moins présente en ce moment, c'est des gens qui sont forcés à se suicider parce qu'ils ont sali l'honneur de leur famille, parce qu'ils ont collaboré avec Israël, parce que des femmes qui ont couché avant le mariage, ou des choses comme ça. On leur dit, allez vous suicider, et votre famille sera alors respectée et recevra plein d'honneur. Donc c'est ça qui crée les attentats. Comment on empêche ça? Si les gens savent que leur famille va payer le prix, si les gens savent que derrière, après l'attentat, ils ne seront pas juste des martyrs, mais leurs parents, leurs enfants, leurs femmes vont subir des conséquences. Il y a un prix à payer pour être terroriste. Il faut qu'ils sachent que le prix est lourd. Et on voit les conséquences. Il y a des familles qui ont dénoncé leurs enfants avant même qu'ils aillent faire des attentats pour les empêcher. Il y a eu des choses comme ça déjà. On voit qu'il y a une baisse globale du nombre d'attaques. Et je pense que c'est assez efficace. Et pour vraiment arriver à faire en sorte qu'on puisse collaborer de façon fructueuse avec la population palestinienne et les aider à se développer économiquement, il faut d'abord que la violence cesse, parce qu'on ne peut pas arriver à un développement économique avec une vague de violence.
Il y a une pression sur de la droite dure, de la coalition et même de gens qui ne sont pas dans la coalition pour dire la politique de Netanyahou n'est pas efficace, il faut encore aller plus loin. Comment Netanyahou arrive à gérer cette pression sachant qu'il arrive à gérer cette pression, c'est la réalité.
Il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est beaucoup de politique politicienne et beaucoup de démagogie. À moins que les gens veuillent vraiment faire une guerre totale, je ne vois pas très bien ce qu'ils cherchent à obtenir. Faut quand même remettre les choses en perspective. Tous ces 6 mois d'attaque ont fait malheureusement 30 morts chez nous. Mais c'est un attentat de la seconde intifada qui faisait 30 morts en une seule journée. Donc il faut que les choses soient remises à leur juste proportion. C'est pas très agréable, mais c'est pas non plus une catastrophe. La vie continue, l'économie n'est pas affectée. Je vois pas vraiment l'intérêt de prendre des mesures qui juste radicaliseraient encore plus les gens de l'autre côté. C'est pas ce qu'on cherche à obtenir. On cherche à calmer les choses. Il faut garder la tête froide, il faut travailler de façon intelligente et arriver à calmer les choses petit à petit.
First of all, we are talking now more on this specific government, which is.
D'abord, on parle là du gouvernement actuel, qui est un gouvernement de droite, dont certains ministres rejettent l'idée de mettre fin à ce que certains appellent l'occupation, d'autres disent la libération, mais peu importe.
Yoram Schweitzer, il dirige le programme sur le terrorisme et les conflits de basse intensité à l'Institut d'études sur la sécurité nationale.
La position des militaires n'interfère pas dans le débat politique. Les militaires, et pas seulement les militaires, mais aussi les services de sécurité, comprennent qu'améliorer la vie des Palestiniens, réduire au minimum possible les contraintes dans leur quotidien, c'est dans l'intérêt des Israéliens, pour leur sécurité. Ça ne vient pas en contradiction avec les politiques. Tous les politiques, même en dehors du gouvernement, même l'opposition, pas seulement pour défier le gouvernement, mais il y a beaucoup de politiques, beaucoup de membres de l'Assemblée qui réalisent et comprennent, pas d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue pratique, technique, que rendre les conditions de vie plus difficiles pour les Palestiniens et ne prendre que des mesures de contre-terrorisme, ça n'est pas productif. Et ça ne va pas dans l'intérêt israélien. Et je ne pense pas que le gouvernement, même si c'est un gouvernement de droite avec une image dure, je ne pense pas que tous, y compris le Premier ministre, soient passés à côté du fait qu'on aurait intérêt à aider les Palestiniens à avoir davantage de liberté, à être beaucoup plus nombreux à se déplacer librement et à venir travailler en Israël pour nourrir leurs familles.
S'il n'y a pas d'organisation dans ces attaques, il y a autour un carburant Internet qui diffuse la culture des attaques. On y trouve même une chanson composée à Gaza, intitulée « Les amoureux de l'attaque au couteau », reprise sur le petit haut-parleur mobile d'un gamin d'une dizaine d'années en Cisjordanie. Il y a aussi les images de la réponse armée israélienne, avec plusieurs situations dans lesquelles les auteurs d'attaques ont été abattus, alors qu'ils ne présentaient visiblement plus un caractère de dangerosité. Taha Katanani fait partie des très rares parents qui revendiquent l'action de leurs enfants. Il a fait plusieurs séjours en prison, soupçonné par les Israéliens d'appartenir à l'organisation classée terroriste du djihad islamique. Sa fille de 16 ans a fait partie des premières à lancer une attaque. Elle a été tuée par un colon qui l'a percutée avec sa voiture avant de lui tirer dessus. Elle a fait un acte de résistance, estime son père. Elle avait un avenir dans les études, mais elle a choisi de bousculer le statu quo avec, aux yeux de Taha Katanani, un changement déjà perceptible.
Beaucoup de choses. D'abord, ils ont réussi à remettre la Palestine sur le devant de la scène. Ça a montré le vrai visage des leaders arabes et des leaders palestiniens qui sont dans la compromission avec les autorités israéliennes. Mais un des points principaux, c'est que maintenant l'occupation est douloureuse pour les Israéliens. Elle a un prix. Vous voyez toutes les barrières de ciment autour des barrages? Ils se sentent en insécurité. Ils sentent la menace. Ça n'est plus notre crise, c'est la leur maintenant. Alors oui, il n'y a pas une attaque tous les jours, mais les Palestiniens sont innovants, ils sont créatifs. Et tous les jours, ils inventent quelque chose de différent. L'occupant sent qu'il a été battu. Il est en crise. Par exemple, l'une des choses qu'un des responsables des services de sécurité m'a dit quand il est venu me voir, il m'a dit « Arrêtez d'encourager ces actions ». Il m'a demandé d'enlever la photo de ma fille sur Facebook. Cette image, pour eux, est une menace. Nous, les Palestiniens, on n'est plus les seuls à subir. Cet équilibre de la menace, dans un sens, c'est le résultat le plus important de ces 6 mois.
Autre regard sur l'implication de ces jeunes Palestiniens, celui de l'avocat Mohamed Mahmoud. C'est une figure à Jérusalem, un hyperactif qui s'empare de presque toutes les affaires touchant les jeunes de Jérusalem-Est, la partie annexée.
Je défends plus de 40 jeunes emprisonnés pour avoir mené des attaques. Ils sont âgés de 12 ans et demi à 17 ans et demi. La plupart viennent de secteurs difficiles dans Jérusalem-Est. Issaouiya, Silwan, la vieille ville. Tous ces enfants n'ont pas accès aux services de base, il n'y a pas d'espace vert. Peut-être que si ces services étaient apportés, les gens pourraient coexister. La raison, c'est qu'ils ne sont acceptés nulle part, ces gamins. L'autorité palestinienne n'en veut pas. Et les Israéliens ne veulent pas d'eux non plus. Certains instrumentalisent les difficultés de ces enfants. Tous ceux que j'ai croisés souffrent de problèmes familiaux graves. Qu'est-ce que vous croyez, les plus jeunes que je défends? Il y en a un qui a 12 ans et 3 mois et l'autre 12 ans et demi. Ils sont partis pour poignarder quelqu'un avec un couteau plus grand qu'eux. Quelle est la conscience de ces enfants? Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils sont d'un milieu défavorisé, ils ont des problèmes. Ce qui les pousse à prendre ce chemin, c'est ce qu'ils voient à la télé, les appels à la violence. C'est tout ça qui les pousse. Ces appels à la violence font des dégâts chez ces enfants. Mais les conditions dans lesquelles ils vivent avec leur famille sont humiliantes. Ces enfants passent par des checkpoints tous les jours. Sur le chemin de l'école, ils sont fouillés, leurs sacs sont fouillés. Les forces de sécurité israéliennes prennent leurs livres et les jettent au sol. Il faut que l'occupant fasse baisser cette pression. Je dis clairement que les informations dans les médias qui appellent à la violence sont l'une des raisons, mais la raison principale, c'est la façon dont l'occupation traite les gens. De notre point de vue, ces enfants de 12, 13, 14 ans ne devraient pas être entraînés au milieu de ce conflit.
Dans la société palestinienne, ces 6 mois révèlent de profondes fractures, identifiées par le Centre palestinien pour la politique et les sondages. Dans sa dernière étude, le directeur Khaled Shikaki note un recul des Palestiniens vis-à-vis des attaques et une fracture générationnelle.
Oui, tout à fait. Il y a des différences et des grosses différences. Il y a un rejet flagrant du système politique par les plus jeunes. Ceux qu'on interroge, qui ont entre 18 et 22 ans, ce qu'on appelle la génération Oslo, ce sont les plus radicaux, les plus éloignés du processus politique. Ce sont eux qui rejettent en grande majorité, et plus que les autres, la solution à deux États. Et ces jeunes sont ceux qui soutiennent le plus l'utilisation de la violence. Si vous regardez à l'autre extrémité, ceux qui ont 50 ans ou plus, vous trouverez un plus grand soutien pour le système politique. Pareil pour la solution à deux États. Et ils sont moins favorables à la violence. Les habitants de la Cisjordanie qui soutenaient les attaques il y a 3 mois les rejettent aujourd'hui. Une majorité des gens en Cisjordanie rejettent les attaques au couteau. Et je crois que pour la majorité ici, l'idée c'est que les attaques n'ont pas d'effet, qu'elles n'aident pas à en finir avec l'occupation israélienne. Donc c'est évident que c'est une question d'efficacité, de résultats, pour pousser les Israéliens à changer leur politique. Il y a la conviction que les attaques au couteau n'apportent pas de changement dans la politique israélienne, mais il y a aussi une majorité de gens en Cisjordanie qui croient qu'une intifada armée, comme la deuxième intifada, pourrait par contre permettre d'obtenir les droits que la négociation ne permet pas aujourd'hui d'obtenir.
Pour traiter de ce phénomène nouveau, le gouvernement israélien utilise des recettes anciennes. La réponse est avant tout sécuritaire et répressive. Les détentions administratives ont doublé en 6 mois d'après les chiffres d'une organisation palestinienne. La politique de destruction de maisons se fait à grande échelle et, entre autres, la relance de la construction du mur est annoncée à Jérusalem et dans le sud de la ville. Les Palestiniens dénoncent l'usage de punitions collectives. Pour le mur, c'est une source de frustration supplémentaire. Si l'on écoute Aïssa Châtelet, il vit au pied de Bethléem. Le mur mord sur une grande partie de ses terres. La construction à cet endroit a repris l'été dernier.
Ici, c'était le futur de ma ville, de Beit Jala. Quand ils auront fini de construire ce mur, il n'y aura plus de futur. Il n'y aura plus moyen d'étendre la ville. Parce que le mur est entre la ville et toutes les terres encore vierges. Et elle est maintenant encerclée de tous les côtés. Donc il n'y a plus de futur pour cette ville. Ils parlent de leur sécurité et la nôtre de sécurité. On n'a pas de sécurité et ça n'intéresse personne dans la communauté internationale ce qui nous arrive ici. Ils nous mettent dans une grande prison. Au lieu de nous donner notre état, ils prennent ou ils nous confisquent toujours plus de terres. Ils ne nous donnent aucun espoir pour vivre ou pour faire la paix avec eux. Ici, ils plantent de la haine. Ils ne plantent pas les graines de la paix.
Vous comprenez que ça rende fou les jeunes Palestiniens, tout ça ?
C'est une question très compliquée, mais oui, peut-être. Ça les affecte. Si vous pressez, vous pressez, vous pressez, et bien après, ça explose, tout simplement. Et je vous le dis, personne ne se préoccupe de ce qui nous arrive ici. Le monde regarde ailleurs.
Dans ce climat, en Israël, presque une moitié du pays se dit tentée par la solution radicale de la partition avec l'expulsion de la population arabe. Le parti de la gauche fait de la séparation à Jérusalem un thème pour tenter d'enrayer sa chute dans les enquêtes d'opinion. Les frontières se sont épaissies, estime l'avocat de gauche Daniel Sedman.
If you talk to official Israel, you will hear about the myth.
Si vous discutez avec des représentants d'Israël, vous allez entendre parler d'un mythe, celui de l'unité de Jérusalem. Mais le seul endroit où Jérusalem est unie, c'est dans l'imagination des idéologues de droite, comme le Premier ministre Netanyahou ou le maire Barkat. J'ai passé toutes les années de la deuxième intifada à aller, quand je le voulais, dans la partie est de la ville, sans prendre de risques, sans sentir d'hostilité. Aujourd'hui, ce n'est plus possible pour moi d'aller dans 90% de Jérusalem Est, sans prendre des risques personnels, physiques, que je ne désire pas prendre. C'est risqué pour un Israélien d'aller dans ces quartiers, sans un ami palestinien, et moi-même j'y vais accompagné. Mais on peut dire la même chose pour les Palestiniens à Jérusalem-Ouest. Mes amis palestiniens qui travaillent dans un café à côté d'ici ne sortent que par groupe de 2 ou 3, à la demande du patron. C'est dangereux pour eux de sortir seuls parce qu'il y a des groupes de vigiles israéliens qui chassent les Palestiniens juste pour le plaisir. Jérusalem est plus divisée aujourd'hui que jamais depuis 1967 et ça risque de ne pas s'améliorer.
« L'intifada au couteau, la haine sans fin, c'était un reportage signé Étienne Monin, réalisé par Annie Brault. Nous sommes toujours avec nos deux invités, la chercheuse Leïla Serin et en duplex de Jérusalem, le politologue Denis Charbit. Une première question à vous, monsieur, vous êtes aux côtés bien sûr d'Étienne Monin qui a réalisé ce reportage. On vient d'entendre parler de cette division de Jérusalem, de cette peur qu'ont maintenant les Israéliens de se déplacer dans l'ensemble de la ville. On sent que l'impact de ce conflit de basse intensité va être très très important, même s'il y a beaucoup moins de morts que pendant la deuxième intifada et au moment où il y avait des attentats kamikazes. Quel est l'impact pour vous sur la société israélienne? Est-ce qu'on assiste à une véritable droitisation, si c'est encore possible, de la société en Israël?
Oui, il est incontestable que cette violence-là, en dépit du même que le bilan est moins lourd que ce que l'on a connu pendant les grandes vagues terroristes de la seconde intifada, c'est vrai que l'impact psychologique est terrible. Pourquoi ? Ben, d'une part parce que ce n'est plus une violence organisée par le Hamas ou par des commandos proches ou non du Fatah, ce qui laisse entendre qu'il peut y avoir ensuite que cette violence débouche sur une négociation ou sur une entente. Elle est le fait de jeunes gens dont on peut imaginer que la conscience politique est pas énorme, même si par ailleurs, oui, ils subissent le poids de l'occupation. Et du coup, c'est comme si on revenait, je dirais, au conflit à un stade, je dirais, primaire. Et du coup, cela suscite, encore une fois, en dépit du bilan qui n'est pas très lourd, cela suscite un effroi absolu. Et je dirais que, pour moi, l'impact le plus dramatique, et c'est valable pour les deux sociétés, c'est que on sait bien qu'un dans un conflit, on a tendance à absoudre sa propre violence, celle de son camp, et à considérer la violence de l'autre côté comme le sommet de la barbarie. Eh bien, je dirais que ce qui est en train de sauter en Israël actuellement, à cause de la nature que prend aujourd'hui cette violence, eh bien, c'est l'absence de lignes rouges. Et je dirais que ce qui me trouble le plus, c'est de voir que aujourd'hui, cette violence, elle peut être aussi parfois le fait de civils, elle peut être parfois aussi le fait de soldats qui ne respectent pas les normes qu'il est nécessaire d'utiliser dans le combat. Et à cet égard, il y a effectivement une sorte d'incapacité dans les deux sociétés de prendre de la distance vis-à-vis de la violence qui s'exerce en son
nom. Moment. Oui, on va parler évidemment du cas de ce jeune Palestinien qui a été abattu ou achevé à bout portant par un soldat israélien. Mais d'abord, je voulais poser une question à Leïla Serin. Qui sont ces assaillants qui n'ont peur de rien? On dirait vraiment une génération sacrifiée qui est prête effectivement à attaquer des Israéliens au péril de leur vie. Est-ce que vous voyez là-dedans une dimension uniquement anti-israélienne et contre l'occupation, ou est-ce qu'il y a aussi la volonté pour eux, finalement, enfin, de faire sauter en quelque sorte les institutions palestiniennes qui existent en ce moment même et qui ne sont pas parvenues du tout à obtenir une solution politique par la résistance pacifique que peut prôner par exemple Mahmoud Abbas?
Écoutez, je crois que si l'on veut comprendre pourquoi aujourd'hui des jeunes Palestiniens attaquent au couteau des Israéliens, il est nécessaire de s'en remettre à la géographie et d'essayer d'identifier les principales localités touchées par ces attaques qui constituent un indicateur fort de compréhension de cette violence. Cette violence a démarré dans la vieille ville de Jérusalem, donc à la fin de l'année 2015, et
en c'est mois
ensuite
d'octobre.
Voilà, et c'est ensuite concentré dans la ville d'Hébron. Et donc il faut bien garder en tête que ces deux villes, donc Jérusalem et Hébron, sont véritablement les deux villes au sein desquelles s'exerce avec le plus de brutalité la violence de la colonisation, violence à la fois physique et symbolique, qui illustre parfaitement les démolitions de maisons, la construction de logements, l'appropriation des lieux saints, le bouclage des territoires, la fragmentation de l'espace, etc. Et il faut savoir qu'à Hébron, les tentatives israéliennes de vider la ville palestinienne de sa population sont anciennes, et que depuis 1997, depuis le partage de la ville d'Hébron en deux segments, donc la zone palestinienne H1 et la zone israélienne H2, page 2, les Palestiniens sont régulièrement empêchés de circuler dans la ville et sont interdits d'accès à certaines routes et à certaines rues qui sont des rues commerçantes. Et donc cela nuit dramatiquement à la pérennisation de l'activité économique.
Donc ils se révoltent contre ceux qui leur font subir ça. C'est en gros
tout à fait,
ce que vous voulez dire. Monsieur Charbit, est-ce que vous rejoignez cette analyse qui fait qu'en fait ces violences sont quand même circonscrites à certains endroits et puis finalement témoignent d'une révolte qui est quand même liée à des choses précises ?
C'est vrai que le mouvement a connu au départ une extension générale puisque ça touchait également des villes en Israël. En revanche, c'est vrai que depuis quelques semaines ou quelques mois, cela touche essentiellement Hebron et Jérusalem-Est. Alors, on peut toujours, bien sûr, trouver des explications et des excuses de ce type, et je pense que l'occupation joue bien sûr un rôle important, mais une fois de plus, le fait que ce soit porté par des jeunes qui sont des préadolescents, montre bien qu'il y a au-delà quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus significatif. Et là, je pense qu'on ne peut pas exclure l'aspect médiatique, l'aspect de la toile, Internet, etc. Le contexte régional et international, je pense que on ne peut pas se contenter d'une seule explication, puisque l'occupation, elle n'a pas commencé en octobre dernier. Elle est déjà près de 50 ans et les motifs n'ont jamais manqué. Mmh. Et pourtant, les vagues étaient très circonscrites, ça durait quelques semaines, ou la première ou la seconde intifada. Or là, on est devant quelque chose de plus complexe, enfin, qui demande plus de nuances dans l'explication que la seule occupation, qui bien sûr est un déterminant qu'on ne peut pas nier.
Oui, alors je voulais passer la parole à Étienne Monin pour qu'on revienne justement sur ce que vous mentionniez tout à l'heure, Monsieur Charbit, et qui concerne un jeune palestinien qui voulait attaquer des soldats. Ça s'est justement passé à Hébron, dont on était en train de parler avec Leïla Sera, et cet homme a été abattu à bout portant par un soldat de 19 ans, qui est aujourd'hui en détention provisoire, mais le parquet, alors vous allez nous expliquer ça, Étienne, le parquet veut requalifier son crime finalement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la société israélienne pour expliquer ce genre de phénomène ?
Finalement, ce qui s'est passé, c'est que face à cet acte qui, filmé par une caméra, ressemble vraiment à une exécution de sang-froid, la société israélienne a réagi et, dans une assez large majorité, a considéré que ce soldat ne devait pas être arrêté, ne devait pas payer pour ce qu'il avait fait. Ce qui questionne un petit peu aujourd'hui le curseur de la norme démocratique, l'éthique, et finalement, un seul personnage politique s'est élevé face à ce qui a été une vraie véritable tempête depuis une semaine. C'est le ministre de la Défense qui a dit il y a de l'éthique dans cette armée, ce qui a été fait est inacceptable et ce garçon doit être jugé. L'armée israélienne, c'est une armée d'enfants, mais au sens des enfants d'Israël. Ici, on fait le service militaire, il dure longtemps. Ce sont de très jeunes gens qui font cette armée. Ce sont les enfants des familles. Et Israël, en voyant ce qui s'est passé, dans l'opinion publique, en tout cas, ce qui a émergé, c'est le désir que ces enfants ne payent pas, quoi qu'ils aient fait dans le cadre de ce conflit. Alors, certes, le gros de cette vague a été mené par, politiquement parlant, l'extrême droite, clairement, et une bonne partie de la droite. Mais il y a aussi, derrière, au fond, dans la société, un véritable mouvement autour de ce cas-là, en disant ce jeune homme, quoi qu'il ait fait, ne doit pas payer dans le contexte qui est aujourd'hui celui d'une agression. Et on en est là. L'accusation souhaite abaisser un petit peu ses charges, mais en enlevant l'intentionnalité, mais elle continue au niveau du tribunal militaire à vouloir le poursuivre, et le tribunal aujourd'hui a considéré qu'il devait non pas être sous arrêt, mais gardé dans une caserne. Donc là aussi,
il est plus en détention véritablement. Et vous me disiez même, Étienne, que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait téléphoné aux parents de ce soldat pour les rassurer et leur dire que le procès de leur fils serait équitable. Monsieur Charbit, qu'est-ce que ça dit quand même de la société israélienne d'entendre un débat pareil ?
Bien, je dirais que ce que les Palestiniens et les Israéliens n'aimeront pas entendre, c'est à quel point ils commencent de plus en plus à se ressembler. Cette manière qu'ont les deux sociétés de protéger la violence exercée par les leurs, quels que soient les motifs, quelle que soit l'explication. Et ce qui est plus grave, et c'est pas pour rien que c'est le ministre de la Défense et le chef d'état-major qui aujourd'hui tentent de mettre le haut là, sans être soutenu ni par le Premier ministre, ni par les membres de la coalition, ni une partie du peuple visiblement, c'est de dire attention, il faut reposer en permanence, précisément parce que nous sommes une société en conflit quasi permanent, il faut poser clairement ce qui relève de la violence légitime et ce qui n'en relève pas. Je tiens à faire remarquer qu'il y a près d'un an, un attentat a été commis par un commando terroriste juif et c'est ça qui fait peur aux autorités militaires. Et d'autant plus que si on prend maintenant l'événement donc de la semaine dernière, c'est donc au sein même de l'armée un comportement qui ne ressemble plus à celui d'une armée qui encadre cette violence et la légitime dans des critères bien précis, mais un comportement de militaire. Eh bien, que la société israélienne réagisse avec ce, je dirais, cet instinct, je dirais, quasi maternel, consistant à dire, c'est les miens, donc je les protège, donc il faut les absoudre. Je crois là qu'on est en train de perdre de franchir une ligne rouge qui montre ici, je dirais, que cette contradiction dont souffre Israël depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire d'un côté une démocratie avec une violence légitime exercée par un monopole qui est celui de l'institution militaire, eh bien la contradiction c'est que nous avons cette excroissance, ce système de domination exercé par les Palestiniens, dont les Palestiniens ne veulent plus, et qu'ils manifestent par de la violence, et qui entraîne ces mouvements d'identification unilatérale, en perdant le sens de ce qui est le droit et de ce qui est hors du droit, et qui est d'une violence incontestable.
Oui. Alors, vous parliez effectivement de ces Israéliens qui protègent leurs enfants, je me tourne vers Leïla Sera, est-ce que les Palestiniens protègent, comme vient de le dire Denis Charbit, leurs enfants, quoi qu'ils fassent finalement, quelle que soit la violence en ce moment des actes que commettent ces jeunes Palestiniens.
Moi, tout d'abord, je trouve ça très problématique de dire tout simplement que ces deux sociétés se ressemblent de plus en plus et de faire un parallélisme tout à fait secondaire à mon avis et vraiment problématique entre une force conventionnelle et ensuite de poser la question si les parents protègent des enfants palestiniens. Je vois pas tellement pourquoi ces deux sujets sont liés. Une force conventionnelle doit se comporter de manière irréprochable ou en tout cas doit user de manière proportionnée de la force.
C'est aussi ce que disait Denis Charbit. Hein.
Oui, tout à fait, mais de dire que les deux sociétés commencent à se ressembler, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord non plus avec le facteur, le contexte régional qui expliquerait la violence des Palestiniens ou tout simplement s'en remettre à la toile et aux réseaux sociaux pour expliquer les violences. Tout ça me paraît complètement secondaire et je maintiens ma position. Selon moi, les facteurs qui expliquent la violence actuelle sont d'abord la perpétuation de la colonisation et ensuite l'usage disproportionné de la force et donc les moyens de la répression employés par les Israéliens qui nourrit la violence. Et donc quand je parle de moyens employés par l'occupation, je parle donc de le niveau de répression. Il s'agit d'abord des assassinats extrajudiciaires, comme on l'a vu avec l'assassinat sommaire du jeune shérif qui a été donc assassiné alors qu'il était blessé à terre d'une balle dans
la
tête.
Le garçon dont on vient de parler.
Tout à fait. Mais outre ces cas d'assassinats extrajudiciaires, on a quand même affaire à des punitions collectives puisque la plupart des dépouilles des Palestiniens ne sont pas rendus à leur famille, ce qui constitue aussi une entorse au droit international et à la Convention de Genève. Je parle aussi de cas d'intimidation des témoins qui ont filmé des scènes compromettantes, donc d'assassinats extrajudiciaires, mais aussi de cas de falsification de la preuve lorsque des Palestiniens ont filmé des Israéliens mettant un couteau dans la main d'un Palestinien déjà abattu sur le sol. Je parle enfin de cas d'enlèvement et de rapt ou de kidnapping qui a eu lieu dans l'hôpital à Hébron, l'hôpital El Ahli, où des Israéliens sont rentrés dans l'hôpital déguisés pour assassiner un Palestinien et kidnapper son cousin. Donc tout cela, on le voit bien, ne peut en aucun cas être assimilé à en aucun cas des cas de bavure ni des actes isolés.
Je pense qu'on a bien compris ce que vous vouliez dire. Mais moi, je voudrais quand même votre sentiment sur la façon dont réagit l'autorité palestinienne, parce qu'elle n'est pas non plus quand même solidaire des attaques, disons, des Palestiniens.
l'autorité palestinienne de Cisjordanie n'est pas solidaire de ces attaques. Le Hamas, en revanche, les soutient, mais les soutient avant tout pour décrédibiliser le Fatah et le président de l'autorité palestinienne, donc l'autorité de Ramallah, qui mène une coordination, une forte coopération sécuritaire avec les Israéliens en Cisjordanie, et donc qui est responsable qui en tout cas est perçu à la fois par son propre public comme un comploteur et comme finalement un complice de l'occupation.
Donc, on va revenir effectivement sur la figure elle-même d'Abbas, qui aujourd'hui est discréditée quand même en grande partie par sa position vis-à-vis d'Israël, puisqu'effectivement il y a une coopération sécuritaire. Denis Charbit, où en est finalement la gauche israélienne dans tout ça, et est-ce qu'elle est encore capable de faire entendre sa voix? Je crois qu'Étienne Monin voulait intervenir sur ce sujet.
Ouais, sur la gauche israélienne, on peut dire que politiquement, elle est aujourd'hui inexistante, qu'elle est mise en difficulté en plus dans ce contexte extrêmement sécuritaire. Et même les groupes de gauche qui finalement sont les plus actifs aujourd'hui sont l'objet d'une campagne, ça n'est pas nouveau, mais assez répétée, relayée au sein du gouvernement, avec même l'adoption en première lecture à la Knesset d'une loi sur le financement de ces groupes. Ce qu'on sent, c'est que finalement, ces groupes qui sont financés par des gouvernements européens, y compris la France, qui relaye tout ce qu'il considère comme être des atteintes aux droits de l'homme, qui lutte contre l'occupation, ces groupes. Israël n'en veut plus dans le débat public, en tout cas la frange au pouvoir aujourd'hui, la coalition au pouvoir aujourd'hui. Et il y a une campagne à répétition qui tente de délégitimiser, ce qui fait que finalement une part de la société est aujourd'hui mis de côté, exclu du débat, doit se taire et traiter de traître. Et c'est un petit peu quelque chose qui s'accentue depuis ces derniers mois, même si ce n'est pas un phénomène nouveau.
Denis Charbit, sur cette question-là, qui veut bien encore aujourd'hui faire la paix avec les Palestiniens en Israël?
Alors oui, je voudrais tout simplement au préalable dire que je ne veux pas rentrer dans une polémique d'un soutien inconditionnel de chaque camp. J'ai voulu mettre en avant cette symétrie. J'ai pas dit que le conflit israélo-palestinien est totalement symétrique, bien évidemment. Mais j'ai entendu dans le reportage d'Étienne Monin que les deux côtés employaient la même expression du prix à payer. C'est le prix à payer de l'occupation, c'est le prix à payer de la violence palestinienne. Eh bien, je trouve qu'il y a là, dans cette incapacité des deux côtés, même si on peut être plus indulgent pour un côté que pour l'autre, mais cette incapacité à critiquer et à condamner la violence, c'est facile de justifier la violence, on en souffre depuis 50 ans si ce n'est plus. Voilà ce que je voulais dire. Et quant au combat de la gauche, alors c'est vrai que ça devient de moins en moins un combat politique et ça devient de plus en plus un combat moral, porté par des grandes figures, par des intellectuels, par des écrivains, par des cinéastes, par une organisation. Je vais de nouveau peut-être être coupable de rétablir une symétrie. La seule organisation israélo-palestinienne aujourd'hui devant laquelle tout le monde est, je dirais, observe un silence respectueux, c'est cette association israélo-palestinienne qui agrège des familles endeuillées, c'est-à-dire des gens qui ont perdu des enfants, des frères, des sœurs, des oncles, des cousins dans ce conflit. Même si les circonstances sont différentes, mais elles ont, elles, payé le prix. Et elles disent très fortement aujourd'hui, si nous ne désespérons pas de la paix entre Israël et Palestine, nous, c'est-à-dire tous les autres Palestiniens israéliens qui n'ont pas perdu leur père, leur frère, leur sœur, leur oncle, n'ont pas le droit moral de désespérer. C'est vrai que ça se fait aujourd'hui dans le côté israélien, il y a une sorte d'épuisement, une sorte de fatigue, et c'est cette contradiction entre une excroissance coloniale qui finalement absorbe la démocratie israélienne. En ce sens, la situation de mon pays va très mal. Je ne me permettrai pas de dire ce qui se passe du côté palestinien, je ne suis pas palestinien, mais c'est vrai que mais ce combat, alors il y a aussi ce qui se passe dans le monde, hein, c'est-à-dire on voit bien que la communauté internationale estime qu'aujourd'hui le conflit le plus grave c'est la Syrie, c'est l'Irak, et de ce point de vue-là, ce conflit, parce qu'il est de basse intensité, eh ben il pèse pas très très lourd, même si on en parle un petit peu plus. Et à cet égard, c'est vrai que la désespérance existe aussi bien pour les forces de gauche, quand bien même elles sont moins nombreuses aujourd'hui. Oui. Mais ne pensez pas que dans l'opinion publique israélienne on voit une solution, c'est-à-dire on a la répression comme réponse, mais cette réponse-là, personne ne pense que c'est une solution à long terme.
Oui, mais alors justement, moi je voulais quand même aussi vous demander quel est l'objectif du gouvernement israélien en poursuivant la colonisation comme il le fait. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut finalement occuper une partie de la Cisjordanie totalement et chasser les Palestiniens, ne jamais créer deux États comme c'était envisagé au moment des accords d'Oslo ?
Je pense très clairement que l'objectif aujourd'hui du gouvernement israélien, c'est d'aller vers une situation effectivement où deux États pour deux peuples, cette formule-là ne serait plus praticable. Et à cet égard, le gouvernement nous envoie tout droit vers cette sorte d'État binational qui est une réalité de fait, mais qui ne sera pas évidemment géré par une égalité entre les deux collectivités, mais par la domination de l'un sur l'autre. Et je pense que c'est très dangereux pour l'avenir de l'État d'Israël et par rapport aux objectifs même qui ont présidé à la création de l'État d'Israël. Mmh. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté.
Leïla Sera.
Oui, au sujet de la répression, je crois que je ne cherche pas du tout à me focaliser sur la répression. Et je crois que l'aspect le plus problématique, c'est justement que l'argument sécuritaire qui découle de la répression est souvent aussi lié à d'autres objectifs comme l'appropriation du territoire et la tentative de transformer la carte démographique de la Palestine en renforçant la présence juive en Cisjordanie. Donc la colonisation, on le sait, elle sert à la fois les intérêts particuliers du Premier ministre Netanyahou, qui utilise des appels d'offres de construction des colonies pour assurer la survie de son gouvernement, et elle sert aussi à moyen terme à rendre impossible tout transfert des territoires. Donc il me semble que la discussion autour d'une part de l'État binational, d'autre part des deux États, est totalement caduque, puisque en réalité aujourd'hui, il faut plutôt parler de quatre États. L'État israélien, un mini-État qui serait représenté par l'enclave de Gaza, un État des colons, ou en tout cas une solution pour les 600 000 colons qui sont en Cisjordanie et qui seront soit annexés à l'État d'Israël d'une manière ou d'une autre, soit auront une autonomie d'une certaine manière, on ne sait pas comment, et un État, enfin ce qu'il reste d'un État palestinien en Cisjordanie sans frontières et sans Jérusalem. Donc en réalité, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, et ni d'une solution politique, ni de deux États, ni d'un État binational.
Mais je voulais quand même vous entendre sur Abbas, parce que Abbas est effectivement toujours à la tête de l'autorité palestinienne, il n'a pas été réélu depuis 6 ans, il paraît complètement discrédité. Quel interlocuteur peut-on avoir côté palestinien pour discuter avec les Israéliens ?
Oui, alors le problème de l'interlocuteur, c'est les Israéliens, c'est toujours l'argument des Israéliens de dire on n'a pas d'interlocuteur en face de nous pour discuter. En réalité, la situation est loin d'être identique à cela, puisque Mahmoud Abbas a été l'interlocuteur privilégié des Israéliens dans les négociations depuis qu'il est au pouvoir, et il a été même très loin dans des concessions, puisque il a même été jusqu'à autoriser un partage des territoires de Cisjordanie et en échange de rétrocéder des territoires en Cisjordanie aux colons, d'obtenir une partie de territoire en Israël, donc territoire que les Palestiniens considèrent comme les territoires de 48. Donc dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur est faux. Après, en revanche, ce qui est tout à fait juste, c'est que Mahmoud Abbas est en difficulté puisqu'il n'a pas réussi à unifier les rangs palestiniens. Donc la division palestinienne est en réalité un véritable problème pour la poursuite de négociations. Mais comme je viens de vous dire, ces négociations, finalement, n'ont pas de sens. Donc remettre l'argument sur la division palestinienne ne sert à rien puisque Israël aussi a tout fait pour diviser les rangs palestiniens. Donc la situation est plus compliquée.
Leïla Sera, merci. Un dernier mot à Denis Charbit. Vous avez peut-être 30 secondes de conclusion, et à Étienne Monin aussi. Oui.
Pour le coup, pour souligner un accord dans ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un blocage, ce n'est pas simplement à cause de Mahmoud Abbas et de l'absence de légitimité démocratique, puisqu'il n'a pas été reconduit dans ses fonctions par un vote populaire, mais également du côté israélien. On voit bien un blocage, puisque c'est un gouvernement qui n'entend absolument pas négocier la solution de deux États. À cet égard, il faut s'en remettre à la communauté internationale, même si je suis bien conscient que ce n'est pas le moment le plus opportun pour obtenir de cette communauté l'appui à cette solution diplomatique et politique.
Merci beaucoup Denis Charbit, et grand grand merci à Étienne Monin qui se trouve à vos côtés, qui a réalisé ce reportage qu'on entendait. Merci bien sûr à Leïla Sera d'être venue dans ce studio. L'intifada des couteaux, la haine sans fin, reportage donc signé Étienne Monin, réalisé par Annie Brault, à la technique ce soir Dofar Guérid. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster bien sûr, la commenter également sur notre site franceculture.fr.